il y a un an ou deux, c'était de réintégrer les études du travail dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise. Ce problème est loin d'être résolu, mais il semble être sorti très largement des esprits. L'atmosphère psychologique, sociologique a changé du tout au tout. La question maintenant n'est plus tellement de savoir comment réintégrer les exclus, elle est de savoir comment rattraper le train ultra rapide de la nouvelle économie, comment libérer des énergies des inventives, des capacités d'initiative, etc. C'est dans ce contexte-là que vous réfléchissez sur la perspective d'une transformation du modèle salarial, disons, en un modèle entrepreneurial. Bien, cette perspective, c'est pour ça que j'ai été perplexe, je crois qu'elle elle peut déboucher sur le pire ou sur le meilleur, et qu'il faut être extrêmement prudent en la matière et tenter de faire la part des choses de la façon la plus sereine possible. Je voudrais tout d'abord décrire, donner quelques éléments d'analyse sur l'ambivalence de ce modèle entrepreneurial, sur certains de ses avantages et certains de ses risques, et puis deuxièmement, j'essaierai d'esquisser ce que pourrait être un nouveau contrat social vers lequel nous tendons tous. Nous savons bien qu'il faut réformer profondément tout un ensemble de choses. Pour être honnête, de prime abord, l'idée d'un modèle entrepreneurial généralisé, l'idée même de devenir entrepreneur de soi, ne me séduit pas. Ne me séduit pas si on la comprend d'une certaine façon. Et vous verrez bien avec moi qu'elle peut être inquiétante. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel monde vivrions-nous si nous devenions tous des entrepreneurs de nous-mêmes, entendu à un certain sens? Et bien, cela voudrait dire que nous commencerions à gérer toute notre existence sur le modèle de la gestion d'entreprise. Ça veut dire que nous nous considérerions comme une sorte de capital à gérer. Non seulement nous aurions un portefeuille d'actions, d'obligations, mais toutes nos actions, toutes nos passions, tous nos investissements affectifs, nous essaierions de les gérer rationnellement, de façon à ce qu'il y ait le meilleur retour sur investissement affectif. Bon, c'est pas très galvanisant. Mais... Ah, je me sens moins seul. Mais bien sûr, je crois que ce n'est pas cette idée-là que le CJD a en tête, et Bob Audrey non plus, ce n'est pas cette vision comptable de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus probablement la vision que développait l'économiste Joseph Schumpeter lorsqu'il parlait d'entrepreneur. L'entrepreneur, au fond, c'est l'aventurier, c'est celui qui invente, c'est celui qui vit dans la passion, de l'innovation, de ce que Schumpeter appelait la création destructrice. Alors, si on pose le problème dans ces termes, bah, évidemment, ça devient tout de suite beaucoup plus séduisant, cette perspective de transformer des salariés, un petit peu passifs, soumis à des hiérarchies, à des subordinations, en innovateurs passionnés. Je formulerais volontiers la question ainsi posée dans les termes de la philosophe, employée par la philosophe Hannah Arendt, à mon avis l'esprit les plus aigus du XXe siècle, la seule qui nous permet de comprendre ces phénomènes monstrueux qu'ont été les totalitarismes, nazis ou communistes, et qui distingue trois grands types d'activités, qu'elle appelle le travail, première activité, qu'elle désigne comme quelque chose de purement instrumental, voué à la reproduction de la vie matérielle quotidienne. Et puis deuxièmement, ce qu'elle appelle l'œuvre, par laquelle les œuvres, les hommes créent des objets qui restent dans la mémoire des hommes. Et puis en troisième lieu, ce qu'elle mettait au sommet de la hiérarchie de l'activité, l'action. L'action, autrement dit, la capacité de faire advenir du nouveau en commun. Voilà l'activité la plus proprement humaine, la plus essentielle, disait Arendt. Vous le voyez bien dans cette trilogie de Hannah Arendt, le travail est tout à fait au bas de la hiérarchie. Et c'est vrai que Arendt s'inspirait d'un modèle grec ancien, dans lequel le travail était réservé aux esclaves, et puis l'organisation salariale de son temps, dans les années 1940-50, c'était le taylorisme, c'était au fond pas si éloigné que ça, de l'esclavage. Or voilà, et je crois que c'est le travail ici, voilà qu'apparaît tout à coup une nouvelle perspective, faire se retrouver, coïncider à nouveau le travail et l'action. Faire que ce soit dans le monde du travail que l'on puisse entreprendre en commun, innover en commun. Voilà une thématique qui vous agite, qui agite aussi une autre partie d'un autre patronat, le MEDEF, pour le pire ou le meilleur, là encore, qui curieusement, d'ailleurs, agite aussi certains auteurs marxistes, des marxistes italiens considèrent que dans la société contemporaine, il n'y a plus que dans la sphère du travail que l'on puisse déployer de l'action au sens de Hannah Arendt, que l'on puisse trouver des aventures amusantes, passionnantes, à vivre. Tout bien. Cela est-il possible? Pouvons-nous tous devenir des entrepreneurs et faire muter ainsi le modèle salarial? Moi, je vois au moins quatre séries de difficultés qu'il faudrait surmonter si nous voulons aller dans cette direction-là. La première difficulté, c'est que tout le monde n'a pas envie de devenir entrepreneur. Il y a là un débat anthropologique à mener. Certains auteurs expliquent que face à l'incertitude fondamentale, face à la peur dans laquelle nous vivons tous, face à la vie, eh bien, il y a deux grandes stratégies, soit une stratégie de puissance ou de création, pas, soit une stratégie de dépendance. On se met sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Pouvons-nous espérer que tout le monde souhaite jouer le jeu de la stratégie de la puissance, abandonner la stratégie de la dépendance? Pouvons-nous espérer que tout le monde désire devenir des maîtres? Je paraphrase un titre célèbre. Eh bien, je n'en suis pas convaincu. Et d'ailleurs, le petit sketch de tout à l'heure mettait ça en scène très très bien. La deuxième difficulté que je vois, je l'ai oubliée. J'essaie de la retrouver. Oui, le deuxième problème, c'est que comment fonctionne une entreprise? Un certain nombre d'économistes, les économistes de ce qu'on appelle les théoriciens du salaire d'efficience, montrent bien que dans le contrat salarial classique, il entre une dimension de don et de contre-don. Les chefs d'entreprise payent la force de travail au-dessus de ce qu'a duré la règle strictement marchande de l'offre et la demande. Le salaire est plus élevé qu'il ne pourrait l'être, mais en échange, les salariés donnent plus que ce qui est demandé par la rémunération. Il y a là un système de don et de contre-don qui fonctionne au sein de l'entreprise, qui permet de fonder une communauté et qui fait qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde, comme on dit maintenant, joue gagnant-gagnant. Peut-il exister une entreprise qui ne comporte pas une dimension de communauté? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, quand je voyais le début de la séance tout à l'heure, qui était d'ailleurs très impressionnant pour ceux qui allaient intervenir devant vous, donc manifestement, tout le monde avait beaucoup plus envie de chanter et taper dans ses mains que d'écouter des conférences plus ou moins ennuyeuses. Ce qui se manifestait, c'est un désir d'être ensemble, c'est un désir de communauté. Bien. Or, ce désir de communauté, je crois qu'il est inéradicable, il est une condition fondamentale de l'établissement de la confiance, de la loyauté, de l'efficacité et de la productivité. Si on réduit l'entreprise, comme disent d'autres économistes, à un nœud de contrat dans lequel tout le monde serait entrepreneur, autrement dit, où tout le monde pourrait se dégager à tout moment, alors la poule aux œufs d'or disparaîtra et tout le monde sera perdant. C'est la deuxième difficulté. La troisième, c'est que, on le voit bien, il y a un discours qui se développe actuellement et qui prétend abolir les hiérarchies, faire disparaître, c'est un discours quasiment révolutionnaire, au fond c'est le vieux discours marxiste repris par le patronat, qui prétend faire disparaître les hiérarchies, le pouvoir sur, pour reprendre l'expression très heureuse de Lydie Livio dans une de vos revues, pour mieux faire éclore le pouvoir de faire ensemble. Oui, c'est très séduisant, c'est tentant, mais il y a quelque chose d'en partie illusoire. Au bout du compte, la domination reste là, le pouvoir de contrainte est là, d'abord parce que c'est le pouvoir de contrainte souvent des marchés financiers, et puis toute la coopération que l'on nous presse de développer est très souvent une coopération de façade. Chacun fait semblant de coopérer, mais personne ne coopère véritablement parce qu'on n'est pas sûr de la stabilité de la communauté d'entreprise. Ou disons-le encore, au fond, il se développe actuellement un pouvoir négatif et une coopération négative. Tout ça sous l'égide du discours d'entreprise. Un pouvoir négatif, en ce sens que, au fond, plus personne n'ose prendre ses responsabilités. On n'ose plus commander, d'une part. Et dans les réseaux apparemment coopératifs, au fond, l'essentiel, c'est de tirer son épingle du jeu, de ne pas se laisser imputer une perte comptable. Donc on fait semblant de coopérer, mais au bout du compte, chacun se retire de son côté et essaie de tirer son affaire du jeu. Voilà, un troisième type de danger. Et puis, il y a un quatrième type de danger. Je grossis évidemment terriblement le trait pour faire une caricature, pour voir ce qui pourrait se profiler si nous n'étions pas suffisamment vigilants. Il y a dans tout le discours sur l'entrepreneuriat généralisé, sur la nouvelle économie, sur l'adaptation nécessaire à la mondialisation économique, il y a une dimension quasiment totalitaire qui se profile à travers le discours sur l'employabilité. On ne demande plus seulement aux salariés de donner leurs compétences, une partie de leur temps d'existence, on leur demande de se donner totalement. Il faut qu'ils soient intégralement employables. Et si on veut qu'ils soient intégralement employables, eh bien cela implique l'abolition de la distinction entre vie privée et vie de travail, entre loisirs et travail. Cette distinction s'interrompt de plus en plus. On le voyait encore un petit peu tout à l'heure, enfin, dans un autre biais, dans le sketch. Et puis, il y a une abolition de la distinction entre privé et public, privé et monde du travail. Et cette abolition des distinctions traditionnelles me paraît potentiellement extrêmement dangereuse. Et les totalitarismes se sont d'ailleurs greffés sur cette perte des repères. Il y a là une logique de mobilisation totale qui peut fonctionner sur un certain nombre d'années. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France. On travaille entre 35 et 50 ans, puis après on est épuisé, et puis chacun ne pense plus qu'à se retirer dans son coin. Bien, tout ça ne me paraît pas souhaitable. Je conclue sur cette liste des inconvénients possibles d'une mauvaise application d'une pensée de l'entrepreneuriat généralisée en disant que ce discours peut verser très facilement dans l'idéologie ultralibérale, et au fond servir à masquer sous des couleurs chatoyantes et apparemment enthousiasmantes ce qui est tout simplement un projet de construction d'une société de travailleurs jetables, de travailleurs précaires, et même d'employeurs et de dirigeants jetables et précaires, car ça ne concerne pas que les salariés. Alors, si nous voulons essayer de garder le meilleur et nous débarrasser du pire, dans quelle direction aller? Quel nouveau type de contrat social essayer de mettre en place? Avant d'entrer dans un tout petit degré de détail, je voudrais livrer deux considérations un peu générales, un peu abstraites peut-être, mais que je pense fondamentales. Pour que ce discours, qui vise à transformer une grande majorité des salariés en entrepreneurs innovants et actifs, soit crédible, il faut que l'objectif soit poursuivi pour lui-même et non pas à des fins instrumentales. On peut le dire dans les termes de Kant, il faut que ça devienne un impératif catégorique. Transformer les hommes et les femmes en acteurs de leur vie, véritablement, en personnes capables d'innover, d'entreprendre, de faire advenir du nouveau en commun, pour le dire comme Anna Arendt. Il faut que cela soit pensé comme une fin en soi, que les chefs d'entreprise désirent le faire, désirent le réaliser, parce qu'ils désirent un progrès de l'humanité, un progrès de la civilisation, un progrès de la société. S'ils le font dans cet esprit-là, alors il y aura un retour bénéfique pour l'entreprise. Il y aura des gains instrumentaux. Mais si on le fait dès le départ dans un esprit instrumental, alors ça échouera. On retrouve ici un paradoxe bien connu, qui est le paradoxe de l'utilitarisme et l'anti-utilitarisme, qui est un paradoxe bien connu du monde des affaires, sous le nom de paradoxe de Dale Carnegie, ce milliardaire et philanthrope américain, qui a fait fortune en vendant un livre, « Comment se faire des amis ?» Quelle était la réponse de Dale Carnegie? Pour se faire des amis, il n'y a qu'une solution, il faut les aimer véritablement. Si vous voulez transformer vos salariés en entrepreneurs, il faut que vous le désiriez véritablement, non pas pour vous, mais pour eux. Voilà une première considération générale. Et puis, deuxième considération générale, il faut également reconnaître que personne ne peut prendre des risques, commencer à innover, si on ne dispose pas d'un minimum de garanties matérielles, de garanties psychologiques. Il faut donc avoir une sécurité statutaire, sécurité matérielle minimale, et il faut disposer des bases minimales de l'estime de soi. Voilà, je crois, les conditions sine qua non de plausibilité d'une évolution vers un modèle entrepreneurial.